Mobile studio.
Studio mobile, Radio Dua, ici à Pompompom. Vincent, tu es ici à Saillant pour ces rencontres reliées qui ont lieu du 10 au 13 septembre 2015. Et toi, tu fais partie de Terre de Liens, un bébé de reliés dans l'histoire.
En fait, j'étais déjà à Reliés en tant que bénévole quand l'idée de créer Terre de Liens est née grâce à un homme du territoire en plus, puisque c'est Sjoerd Vartena qui était là ce matin et qui était paysan dans le Diois. Et qui a eu cette idée de créer une structure qui facilite l'accès au foncier pour des jeunes ou moins jeunes paysans, vu les difficultés liées au prix de la terre, et entre autres. Hein. Et puis aussi, un autre enjeu de créer Terre de Liens, c'était de sauvegarder les terres agricoles, puisqu'on perd 170 hectares de surface agricole utile tous les jours en France, liées notamment à l'urbanisation, mais aussi bien à l'urbanisation des villes et des villages, quand on voit ces lotissements qui poussent dans les terres agricoles, donc avec toutes les questions d'urbanisme, d'aménagement. J'avais la chance d'être au conseil d'administration de Reliés au moment où Sjoerd est arrivé avec cette idée. Et puis c'est un autre jeune homme qui s'appelle Jérôme de Coninck qui est à Cray, qui est un des responsables aujourd'hui, qui est le directeur aujourd'hui de la Fondation Terre de Liens, qui était salarié de Reliés à l'époque et qui, avec Sjoerd, ont fait un binôme salarié bénévole pour créer une structure Terre de Liens qui est née en 2003 et à laquelle moi j'ai pu participer. J'ai eu la chance de participer en étant bénévole de Terre de Liens jusqu'en 2012. Et depuis septembre 2012, je suis salarié de l'Association nationale Terre de Liens. Voilà. Et c'est bien un des petits de Reliés.
Alors, bon, je vais poser la question basique. Qu'est-ce que fait Terre de Liens ?
Alors, Terre de Liens, son objet principal, c'est de remettre en question la consommation des terres agricoles. C'est de remettre en question la spéculation des terres agricoles. C'est de remettre en question sur les territoires la difficulté que rencontrent des jeunes et moins jeunes à s'installer à cause de cette spéculation foncière, de cette appropriation des terres. Et pour aller plus loin, c'est même se poser la question de la valeur d'usage d'une terre, de la question de l'usage. On disait souvent à un moment donné, usus abusus fructus. Dans notre esprit, c'était celui qui récolte les fruits de la terre, c'est celui qui l'utilise, qui la travaille, c'est pas celui qui en abuse. Donc avec toute cette question un peu tabou quand même, très tabou même au sein de Terre de Liens, de la question de la propriété privée individuelle et de l'héritage, puisqu'il y a tout ça derrière, de la transmission. Donc Terre de Liens, son premier objet, c'est bien de remettre en question ces usages de la terre agricole. Et puis cette disparition de terre agricole. Et un modèle agricole qui est en fin de vie, on l'a encore vu cet été, qu'on peut réalimenter à millions ou avec des milliards d'euros, mais ça ne va pas régler le problème de fond et structurel qu'a le monde agricole. Donc aussi la question de l'alimentation, donc de la qualité de l'alimentation, d'une alimentation plus locale, plus qualitative. Donc Terre de Liens, après concrètement, c'est que pour pouvoir incarner cette utopie, on va dire un peu d'usage du foncier on a tout de suite pensé, et ça c'est Sjoerd qui a beaucoup porté ça avec son côté très pragmatique, de récolter du pognon, d'avoir de l'argent pour acheter des terres et montrer qu'on pouvait libérer des terres de la spéculation. On disait ça, on va libérer les terres de la spéculation, et on a créé comme ça une foncière, une société en commandite par action, modèle assez capitaliste, mais qui nous permettait de juridiquement séparer le pouvoir de l'argent du pouvoir de gestion de la terre. Ça c'était important. Et on a créé la société en 2007. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 actionnaires. On doit être à 12 000 actionnaires. On a 47 millions d'euros de capital et avec ça, on achète des terres. Donc on a acheté une centaine, plus de 100 fermes aujourd'hui. Alors ce qui est rien, c'est-à-dire on achète 10-15 fermes par an. Il en disparaît 200 par semaine. Faut quand même. Mais par contre, à chaque fois qu'on achète une ferme, on peut faire du terre de lien autour. C'est-à-dire que on peut mobiliser un parc naturel régional pour faire un observatoire de la consommation des terres agricoles. On peut mobiliser une communauté de communes ou une communauté d'agglos en disant, mais là, vous avez des terres qui sont encore disponibles. Est-ce qu'on peut pas faire des choses ensemble pour y installer des paysans qui vont faire une agriculture de qualité, de proximité, qui va répondre à un besoin de plus en plus croissant des consommateurs qui veulent avoir une alimentation la plus saine possible avec tous les scandales qu'il y a pu y avoir ces dernières années. Une des choses importantes qu'on fait, c'est qu'on achète des fermes, on récolte des actions, on mobilise des citoyens. On a un mouvement citoyen. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que grâce au fait d'acheter des fermes, on va mobiliser des gens qui sont touchés par la question des terres agricoles de par leur histoire, parce qu'on a tous un attachement au monde agricole, de près ou de loin, de pouvoir réinvestir cette mobilisation citoyenne dans le projet politique, à travers des associations. Donc on a créé aussi. C'est vivant ici, hein, on est à côté d'un terrain de foot où les enfants pleurent, c'est terrible. Et du coup, d'ailleurs, on perd un terrain de foot toutes les 10 minutes en terre agricole.
Ça, c'est dommage. Hein.
Et
que vont faire les jeunes qui auraient pu y pratiquer du sport?
Non, on aime bien le sport aussi. Mais du coup, non, ce qu'on fait, en fait, la mobilisation, on a créé 19 assos régionales, on couvre tout le territoire français et on a des fermes dans chaque région de France, à part la Corse. Et après, on va accompagner aussi toutes les dynamiques d'accès collectif et solidaire au foncier, que ce soit des groupements fonciers agricoles, des sociétés civiles immobilières, des associations, etc., etc.
Donc vous achetez des fermes, du terrain, vous y installez des agriculteurs qui pratiquent une agriculture de qualité.
En fait, ouais, nous on a mis en place un système qui fait que à chaque fois qu'on achète une ferme et que alors on installe des paysans, j'aime pas trop dire ça, c'est les paysans qui s'installent sur ces terres, qui s'y installent. On a plus de demandes qu'on accueille 1400 porteurs de projets par an en fait sur toute la France. On accompagne 500 ou 600 projets vraiment. Et du coup, c'est une centaine, entre 100 et 150 personnes qui s'installent. Alors pas que sur des terres achetées par la foncière Terre de Liens, mais aussi sur des groupements fonciers agricoles. Ce que je disais, en Bretagne, par exemple, ils ont accompagné 30 GFA SCI, il y a 3000 sociétaires, c'est 70 paysans. Et du coup, on signe des baux ruraux environnementaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on signe des baux ruraux avec des critères environnementaux qui fait que avec la majorité des gens sont en agriculture bio. En circuit court, mais pas seulement. On a deux fermes en filière, une en comté avec une fruitière dans le Jura et une en Roquefort bio sur le Saint-Africain où j'habite par ailleurs. Donc il y a de tout, mais on est toujours sur des baux ruraux environnementaux, c'est-à-dire que on a fait passer dans la loi, alors ça je ne l'ai pas dit, c'est qu'à travers toute cette action, on a mobilisé comme ça 15 000 citoyens. Et du coup, on arrive aujourd'hui à être entendu et à être écouté même par des ministères comme ceux de l'écologie, des finances, de l'économie solidaire, de l'agriculture. Pour faire bouger le législatif, le bail rural environnemental, on l'a fait bouger pour que nous on puisse signer ce type de baux. Et on est un des plus gros promoteurs du bail rural environnemental en France. C'est-à-dire que quand un paysan s'installe, ben on va pouvoir soit sur la gestion des haies, des sols, de l'eau, des terres, voilà, de pouvoir mettre des critères dans le bail qui sont opposables en droit si jamais le paysan respecte pas ça. Voilà, c'est des causes d'exclusion. C'est pas arrivé. On fait ça en bonne intelligence. Ça se passe très bien. On n'a pas assez de recul peut-être, mais sur 7-8 ans, on n'a eu aucun souci.
Mais comment vous déterminez en ayant... Donc c'est une société à capital qui existe quelque part, une association à capital.
Non, en fait, il y a 22 structures différentes. C'est là où il faut bien, bien séparer les choses.
Oui.
C'est-à-dire que cette société en commandite pour action, c'est un outil. Nous, on a monté cet outil financier pour montrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'être pragmatique et qu'on fait des choses concrètes, opérationnelles. Et ça plaît, que ce soit aux citoyens, aux élus, à tout le monde. Mais à partir de ces actions très concrètes d'acquisition, d'installation agricole, eh bien on va pouvoir animer sur le territoire des questions autour de la terre agricole qui pour nous sont d'utilité publique. On a même en mai 2013 créé une fondation reconnue d'utilité publique après 10 ans de travail pour poser la question publique du maintien des terres agricoles. Et je suis triste de dire ça, mais aujourd'hui, on a besoin de créer un espèce de conservatoire des espaces agricoles, comme on a des conservatoires des espaces naturels. Puisqu'il y a cette disparition, une hémorragie qu'il faut arrêter, parce que sinon, on n'aura plus de paysans dans 20 ans, ou très peu de paysans.
Qu'est-ce que vous définissez par agriculture de qualité? Est-ce que c'est se démarquer du circuit commercial habituel que de consommateurs? Ou alors vous essayez aussi d'imposer des nouveaux produits ou d'anciens produits qui ont été écartés par des commissions ou des normes sanitaires, par exemple?
On va pas aller trop loin dans l'ingérence du paysan. Hein. Le paysan, il est paysan, il est entrepreneur, il s'installe sur des terres, on lui loue les terres, on fait un bail le plus long possible.
Quels sont les critères pour vous qui permettent de dire que c'est une agriculture de qualité?
Il y en a plusieurs. Il y a le fait d'être lié au territoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer des fermes de 1000 vaches. Alors, je le fais en creux, c'est le respect de l'animal, le respect du végétal, le respect des enfants, des hommes, des femmes qui vivent autour, le respect de l'eau. On travaille avec les agences de l'eau, par exemple, sur les zones de captage, parce qu'on va faire forcément avec les borurons environnementaux, on va moins avoir d'impact en nitrate sur la pollution ou l'eutrophisation des rivières. C'est de remettre en place des haies, d'avoir des arbres, de faire attention aux arbres remarquables. C'est sur la gestion des sols, de faire attention aux micro-organismes. On n'a pas assez de recul, mais on est en train de faire les premiers diagnostics agro-environnementaux justement des effets de cette agriculture, parce qu'il faut quand même pouvoir la qualifier, comme vous le demandez là. Donc le seul critère aujourd'hui objectif, c'est le label bio, mais qui n'est pas suffisant pour nous. Donc on doit aller plus loin sur ces questions de proximité aussi, de déplacement. Mais on est remis en question par certains adhérents ou certains membres de Terre de Liens. Quand on achète une ferme en Roquefort bio à Saint-Afrique, on est bien sur une filière Roquefort. Qu'est-ce que ça veut dire Donc on a aussi un enjeu de toucher le plus grand nombre, aussi d'aller dans des mondes où on ne serait pas allé forcément, notamment aller discuter avec l'association, le syndicat des producteurs du lait de Roquefort ou des syndicats du producteur de lait du comté, parce que pour nous c'est important qu'on puisse toucher tous ces gens-là.
Alors Terre de Liens, vous êtes établi du côté de Cré, je crois.
On a un siège administratif, le siège social est à Cré,
oui,
pour l'association nationale. Après on a 19 assos régionales qui ont leur siège partout dans les régions. Il y en a à Lyon, à Toulouse, à Rennes, à Nantes, à Angers, en Normandie, partout. Et après, on a un siège il me semble que le siège de la foncière, après on a un siège administratif aussi à Paris, on a des locaux à Paris. Donc on est un peu partout. En fait, le fait d'avoir le siège à Cré était vraiment lié à l'histoire et aux gens qui ont créé Terre de Liens, donc avec Chourte qui était paysan à Die et Jérôme qui habitait à Cré en tant que cheville ouvrière, on va dire, sur le montage de Terre de Liens. On a gardé ses locaux, on est copropriétaire avec un bar à jeux qui s'appelle Archijeu qui va venir ce soir pour faire une animation jeu, et puis une coopérative d'activité qui s'appelle Solstice qui est juste en bas, et voilà. Et puis des petites assos artistiques ou culturelles.
Est-ce que vous réfléchissez en long terme dans des projets qui sont liés à ce que vous aidez à monter?
Oui, après...
Essayez d'être l'écho des besoins de la localité par rapport à des propositions qui vous sont faites à aider.
Dans Terre de Liens ou...
Oui, dans Terre de Liens, je reste.
Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai l'habitude de dire, moi, que la durabilité du projet, quel qu'il soit, soit de territoire individuel, collectif, il est lié à la cohérence entre le projet de vie, quelque part, et le projet d'activité. Et s'il y a une cohérence entre les deux, ça va être beaucoup plus durable. Et par rapport au projet agricole que nous, on va pouvoir accompagner, ou par rapport au territoire qui nous demande un soutien, que ce soit une communauté de communes, une communauté d'agglo, c'est de pouvoir toujours avoir en tête que quand on sera plus là, il y a une continuité, en fait, sur ce... Et quand on achète la terre ou quand on nous donne de la terre, parce qu'on nous donne de la terre aussi avec la Fondation reconnue d'utilité publique depuis 2 ans, c'est bien sur une durée illimitée. C'est pas sur une durée limitée. Et que si le projet même de la personne ou des personnes qui sont installées s'arrête, nous, on a toujours la terre. Et c'est important, c'est-à-dire que notre idée, c'est de pas vendre la terre. Parce que si on revend la terre à qui que ce soit, alors à moins que ce soit une Fondation reconnue d'utilité publique, qui a une durée illimitée, on remet la terre dans un circuit spéculatif, puisque si on la revend aux paysans... Il a beau être sympa, gentil, tout ce qu'on veut, ses enfants sont peut-être... les enfants vont hériter, les petits-enfants. On remet cette terre dans le circuit de la spéculation et nous, on lutte bien contre la spéculation. Donc si un jour on revendait la terre, ce serait de manière très, très exceptionnelle. Ou alors, c'est que Terre de Liens aura perdu son âme, ouais.
Donc ça me laisse penser, d'après ce que vous dites, que vous avez une certaine reconnaissance des élus et des représentants élus ou des collectivités locales, du fait simplement que vous possédez une richesse, oui. C'est la terre.
Oui. Oui, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on s'est rendu vite compte, puis on le savait en créant la société en commandite par action, que c'est bien par le capital qu'on allait pouvoir mobiliser, qu'on allait pouvoir être connu et légitimé. Et du coup, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est une réalité. Et quelque part, moi, j'ai... Les fermes, c'est bien qu'on achète des fermes, mais c'est pas le plus important. Quand on achète 10 fermes ou 15 fermes par an, puis qu'il en disparaît 200 par semaine, on voit bien que le problème, c'est pas ça qui va régler le problème. Par contre, qu'un PNR ou qu'une commune nous appelle et nous dise, bon là, ça, j'ai plus de paysans et j'aimerais bien qu'il y ait des paysans, ben là, on commence à rentrer dans un jeu intéressant et que la commune acquiert une terre ou sauvegarde une terre, la loue en bail rural environnemental sur une durée très longue à des paysans, ben, quelque part, on a une partie de gagner, même si on n'a pas tout gagné. Et puis aussi, on a fait un petit truc assez rigolo. Avec Terre de Liens Normandie, on a créé un convertisseur alimentaire local où on a montré, et ça a été repris par un article d'Hervé Kempf dans Le Monde d'ailleurs, on a été très surpris, où aujourd'hui, il y a 500 000 paysans en France. Si on faisait que de l'alimentation locale, on pourrait avoir 1 200 000 paysans. Alors que si je dis ça et que les paysans m'écoutent, ils vont me prendre pour un fou. Alors même si c'est pas vrai, que c'est complètement utopiste, malgré le fait que quand on utilise ce convertisseur alimentaire local, qui en fait prend chaque commune, on peut le faire, chaque commune peut s'amuser à le faire. Là où tu habites, le maire de Saillant pourrait le faire. Il rentre le nombre d'habitants, le type de terre, le type d'agriculture, avec une agriculture de proximité, ben combien il pourrait y avoir de paysans installés si tout le monde se fournissait en agriculture de proximité. Et on sait qu'on pourrait multiplier au moins par deux le nombre de paysans, ce qui serait quand même intéressant au vu de la disparition du nombre de paysans. Donc du nombre de demandeurs d'emploi aussi, hein, de revaloriser aussi tout ce métier agricole et de remettre en question du coup tout ce qui est politique agricole commune et redistribution des aides européennes. Parce que derrière, comme c'est des aides beaucoup à la surface, ben c'est la course à l'agrandissement, alors que ça c'est une aberration en fait.
Une recherche d'autonomie locale aussi que vous mettez en avant ?
Non, pas trop. On va plutôt être sur une recherche de bien-être et de santé publique plus que d'autonomie locale. Même si on sait que d'installer le maximum de gens sur une agriculture de proximité va favoriser cette autonomie. Mais ce n'est pas notre premier enjeu. Notre premier enjeu, c'est que les terres, elles restent agricoles. Et qu'un paysan fasse... j'allais revenir sur le Roquefort bio qui part à Papillon bio et que ça parte partout en France. Ça fait vivre un territoire. Il y a aussi une proximité du territoire. Il y a un certain label, il y a un certain mode de fonctionnement, de transparence financière, de gouvernance. Et on a intérêt de se battre pour que ça soit conservé. On va aussi être sur le lien social. Plus il y aura de paysans de proximité, plus auront de liens sociaux et il y aura peut-être moins de suicides de paysans en France. Aussi.
Oui, qui pâtissent beaucoup, je suppose.
À fond, qui pâtissent beaucoup qui sont de plus en plus isolés, mal vus, parce que c'est eux qui, soi-disant, polluent la terre. Et je pèse mes mots, hein, que ce soit n'importe quel type de paysan, et que c'est dur pour le monde paysan, ouais, pour tout le monde paysan. Et je comprends, moi, venant du monde très rural, que ce soit violent et j'entends leur souffrance. Maintenant, c'est aussi à nos élus, à notre... État, notre Europe, et à nous, citoyens, de revoir les choses structurellement et pas conjoncturellement, parce que sinon on va dans le mur, et c'est ce qui va se passer. Et en plus, en faisant comme ils font sur de l'exportation à tout va, il y a des effets même sur des pays du tiers-monde, puisque si on exporte toute notre nourriture, une partie de la nourriture dans des pays où ils le produisaient, on va mettre des paysans du tiers-monde sur la paille, et on voit ce que ça donne avec l'émigration. Entre autres, hein, c'est pas les seules raisons, mais en tout cas, de gens qui crèvent la dalle et qui sont obligés de partir de chez eux.
Du côté de Cré, alors, qu'est-ce qui a été produit localement pour situer un peu l'auditeur, s'il s'intéresse un peu ?
Alors à Cré, on a d'abord un local et un super barrageux rue Archinard. Alors 10 rue Archinard, je vous invite à aller au barrageux, en tout cas Archijeux, qui a été porté en son sein par Relier. C'est un petit bébé de Relier, d'ailleurs, je ne sais pas s'il apparaît sur la frise, mais... Moi, je connais pas bien, je suis de Sainte-Afrique et du Sud Aveyron, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un paysan boulanger qui fait du super boulot. Un petit village à côté de Cré, alors je vais avoir oublié le nom du village, mais à 15 km, qui vend à une petite pâtisserie-boulangerie qui fait de la pâtisserie pain bio sur Cré. Voilà, il y a au moins ça qui a été acheté par la Fossière, ça s'appelle Upi. Voilà, à Upi, voilà, c'est ça, c'est à Upi.
Cette réunion et ces rencontres reliées vous ont apporté quoi pour ce long week-end ?
Moi, ça me ramène de la respiration. C'est-à-dire que je suis à fond dans Terre de Liens depuis 2 ans et demi en tant que salarié. Avant, j'étais en tant qu'élu associatif. Et bah, ça m'a apporté un temps de respiration, d'échange, de prise de recul, de rencontre avec des gens que voilà, qui sont des compagnons de route des fois depuis 20 ans. Donc c'est un moment aussi festif, convivial. Voilà, ça m'apporte au moins le plaisir de 3 jours avec tous ces gens.
Et est-ce qu'il existe un lien internet, par exemple, pour vous trouver
Bah oui, relier.info et puis terredelien.org.
Eh bien, Vincent, Jeannot, merci d'être
merci
venu
à
au
vous.
Micro. Et je vous laisse parce que les gouttes commencent à tomber.
C'est ça. Et vous êtes dans une belle région.
Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.